Radio-Télévision Suisse.
RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Au programme aujourd'hui, un grand voyage en Chine, un périple haïtien, une escale en mer et le monde impitoyable de l'art. Ce week-end, le festival Étonnant Voyageur se tient à Saint-Malo. 250 écrivains et artistes francophones de toutes origines se retrouvent pour 3 jours d'événements. À l'image de ce festival, nous avons provoqué une rencontre. Le célèbre breton Yann Kefelec et le jeune auteur haïtien Néhémy Pierre Dahomey sont sur notre plateau. Il sera question de l'actualité des livres de poche aussi, avec la parution d'un récit de souvenirs captivants signé Yo-Yo Mag. Et puis nous recevons un grand journaliste, réalisateur de documentaires, Alexandre Trudeau raconte sa découverte de la Chine depuis l'enfance avec son père Pierre-Éliott Trudeau et avec son frère Justin Trudeau, Premier ministre canadien. Un récit passionnant, très actuel et d'une grande intégrité.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et comme toujours, 4 libraires sont en multiplex à travers la francophonie. On accueille une nouvelle libraire suisse aujourd'hui. Claire Renaud est libraire à Genève dans la librairie Atmosphère. Bonjour Claire.
Bonjour Emmanuel.
Ça rime, Atmosphère et Claire, c'est magnifique. Quel beau début. Où êtes-vous exactement à Genève? Que voyez-vous à travers votre vitrine?
Alors je vois la jolie rue Saint-Léger. Part du boulevard des philosophes et qui va jusqu'à la vieille ville avec des jolies boutiques originales. Et il y a la mienne.
Et la vôtre, oui. Sacrée boutique, une librairie. Oui.
Alors, librairie, mais je ne vends pas que des livres. Je vends aussi des objets, de la carterie, des jeux. L'idée est de changer d'air, donc référence à Atmosphère, la citation d'Arletty dans Hôtel du Nord.
Oui.
Et donc, vous vous détendez, je vous accueille avec un thé de bienvenue. Et puis, il faut prendre le temps, parce que c'est une caverne d'Ali Baba.
Très bien. Bon, bah, écoutez, voilà, vous avez bien présenté votre librairie. Soyez la bienvenue dans la librairie francophone. Bonjour Annick Dor.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à la Hulpe, dans la librairie de la Mazarine. Vous représentez la Belgique. Bonjour Grégoire Courtois.
Bonjour.
Vous êtes libraire à Auxerre, en Bourgogne, dans la librairie Oblique. Un libraire exigeant, très dur, mais qui reste toujours courtois.
Absolument.
Ah, voilà, vous ne l'avez jamais faite celle-là.
C'est vrai que c'est
un pari avec mon équipe.
Incroyable.
Au Canada, c'est Billy Robinson qui représente le Québec et le Canada dans son ensemble. Bonjour Billy.
Bonjour.
Vous êtes libraire dans la librairie de Verdun à Montréal. Vous avez une sacrée pêche apparemment. Tout va bien?
Très 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 bien, merci.
Okay. Bonjour Yann Kefelec.
Bonjour.
Vous participez à un recueil de nouvelles sur le thème de l'aventure. Vous êtes aussi l'auteur du dictionnaire amoureux illustré de la Bretagne, on en parlera tout à l'heure. Mais on commence toujours cette émission par une histoire, anecdote personnelle que je découvre en même temps que les auditeurs. Vous avez carte blanche Yann, quelle histoire voulez-vous transmettre?
C'est tout de suite.
Oui.
Quand j'ai écrit les Noces Barbares, j'avais tendance à me balader avec le manuscrit sur moi directement, à même la peau entre la chemise et les épiderme, parce que je ne sais pas, j'avais peur des aléas. Et bien m'en a pris un jour où me trouvant en pleine mer, enfin pas tout à fait en pleine mer, dans le port de Dartmouth, à bord d'un de mes voiliers, eh bien le dinghy a fait naufrage. Il s'est dégonflé et nous avons dû repartir à la nage.
Ah oui,
et là, je suis arrivé sur mon bateau avec le manuscrit des Noces Barbares détrempé sur le corps et je l'ai mis à sécher comme ça avec des pinces à linge dans les haubans du bateau. J'ai vu mes feuillets comme ça volter au vent d'une forte rafale cette nuit-là et j'ai pu récupérer, grâce à ce stratagème, le premier chapitre des Noces Barbares et même à le sauvegarder dans sa totalité.
Très bien. Noces Barbares, votre plus grand succès. Magnifique succès.
Oui, succès de librairie, c'est quand même formidable. Succès de librairie, il ne faut pas non plus se voiler la face.
Lu dans le monde entier aujourd'hui, traduit,
oui,
etc.
C'est vrai, non, franchement, c'est un roman qui m'a porté chance, mais je n'ai pas écrit que cela.
Et qui a pris l'eau quand même.
Et qui a pris l'eau avant même d'être publié.
Avant même de sortir. Yann Kefelec est dans la librairie francophone cette semaine. Bonjour Alexandre Trudeau.
Bonjour.
Soyez le bienvenu dans cette émission. Vous êtes auteur, journaliste et documentariste canadien, fils de Pierre-Éliott Trudeau, ancien Premier ministre du Canada, personnalité politique majeure de l'histoire du Canada, frère de Justin Trudeau, l'actuel Premier ministre. Vous avez publié un récit sur la Chine, en Chine, paru chez Paulsen en Europe et chez Boréal au Canada. C'est votre père d'ailleurs qui vous a donné envie de découvrir la Chine. Vous le racontez dès le début, ça.
C'est vrai, mon père était avant tout un voyageur.
Et un de ses premiers grands voyages, disons que c'est un voyage qui l'a marqué beaucoup, c'est en 49, en Chine, à la toute fin de la Révolution. Et la Chine était devenue pour lui le pays où on s'en va pour quitter notre zone de confort, pour quitter l'Occident, pour comprendre que le monde est multiple et plus large, qu'il y a d'autres civilisations dedans. Et c'est ce qui nous a appris aussi au fil des ans, avec d'autres voyages en Chine avec lui.
Et alors qu'il a quitté ses fonctions de Premier ministre depuis 6 ans, votre père vous emmène en Chine avec votre frère Justin, un an après les événements de la place Tiananmen. C'est en 1990, et même à titre personnel, politiquement, c'est délicat, c'est osé de la part de Pierre-Éliott Trudeau.
Oui, c'était mon insistance qu'on était censé y aller en 89, l'année de la place. Je voulais quand même y aller, mon père m'a fait comprendre ça se fait pas, visiter la Chine à ce moment-là. Mais j'ai insisté pour que l'année après, qu'on y aille. Mon père était hésitant parce que le Canada avait rompu les liens avec la Chine à ce moment-là. Mais il savait, j'avais 15 ans ou 16 ans même. Mon frère avait 18, donc le temps de voyager avec ses enfants tirait à sa fin. Ouais. Donc, il avait accepté d'y aller. Donc, c'était ma première découverte consciente de la Chine.
Vous êtes très excité avec votre frère. Vous racontez une anecdote où vous dévalez une montagne sacrée comme deux adolescents qui s'amusent. Sauf que c'est un peu mal vu.
Oui, finalement, le voyage, on aurait voulu faire le voyage en vrai voyage sac à dos. Mais pour les Chinois, il n'y a pas de retraite de la politique. Et donc, mon père, fallait le guider partout. Donc, c'était très protocolaire. La montagne sacrée, c'était pas sacré pour nous. C'était une occasion de dépenser un peu d'énergie emmagasinée. Mais on s'est blessé en le faisant. Et mon père s'est frustré contre nous.
Et vous dites une phrase terrible.
Il nous a dit, écoute, les gars, les Chinois nous considèrent les Occidentaux comme des barbares. Donnez-leur pas raison. Montrez du respect.
C'est ça. On va donner la parole à notre libraire québécois. Tiens, justement, Billy Robinson, que pensez-vous du livre d'Alexandre Trudeau?
On ressent bien l'expérience que vous avez, là, Monsieur Trudeau, en tant que réalisateur de documentaires. Alors, les chapitres distincts, comme autant d'étapes de votre périple, tous liés par un fil conducteur qui permet de bien ressentir cette curiosité, ce respect et l'attachement pour ce peuple. Alors, les images que vous avez réussi à créer à la lecture de vos réflexions rendent le tout instructif et surtout passionnant.
Effectivement, c'est très instructif. En 2005, vous y allez enfin en Chine tout seul, et puis en 2006, et finalement presque tous les ans, vous y faites des rencontres, et dans ce livre, vous dressez le portrait de la société chinoise. À travers ces échanges avec des Chinois, vous faites beaucoup de rencontres, vous dites vouloir tout savoir, et vous semblez admirer le pays, encore aujourd'hui, malgré tous les travers politiques, tous les travers économiques.
Oui, c'est un pays fascinant. C'est-à-dire, il n'y a pas un pays qui a une histoire aussi importante que la Chine. On oublie jusqu'à quel point l'Occident est fait de changements et de transformations. La Chine, c'est les mêmes gens qui habitent le même endroit depuis 5, 7, 8 000 ans. Et donc, il y a une continuité historique qui est fascinante. Mais ce qui rend la Chine encore plus intéressante, c'est que c'est une Chine nouvelle qui se déploie devant nous. C'est une Chine complètement transformée. Donc, tu as le très ancien et le très nouveau. Qui sont dans une espèce de danse où on trouve un peuple qui explore pour la première fois c'est quoi la liberté. Peut-être pas politique, mais la liberté personnelle.
Mais c'est compliqué, vous le notez d'ailleurs.
C'est farouchement compliqué.
Et pourtant, vous admirez quand même.
J'admire, oui. C'est un peuple surprenant. C'est un peuple très, très ouvert d'une certaine manière. On s'attend à un peuple. C'est un peuple heureux aussi. Ça, on s'y attend pas. C'est-à-dire, on pense toujours à la politique. Oh, c'est un peu opprimé, pas de liberté, donc les gens doivent être malheureux, ça doit être terne. Non, c'est un pays où les gens sont jeunes, sont tournés vers l'avenir, sont excités par ce qui leur arrive. On pense que la Chine, il n'y a pas un endroit au monde qui s'est enrichi aussi vite que la Chine depuis 30 ans.
C'est très mystérieux, d'ailleurs, parce que
Yann Kefelec.
La Chine, c'est l'empire du milieu. La Chine se considérait comme le nombril de l'univers, n'avait aucun besoin d'aller vers les horizons extérieurs. C'est contraire à ce que la Chine a toujours manifesté de par son histoire. Une concentration sur elle-même, sur la cité interdite. Brusquement, la cité n'est plus interdite et le monde devient permis.
Oui, mais c'est encore une Chine qui ne pense pas au monde. C'est-à-dire, les Chinois n'ont pas le temps de réfléchir sur les grandes questions souvent. C'est encore l'empire du milieu, d'une certaine manière.
Alors, les grandes questions, vous en parlez parce que vous constatez en Chine, à Pékin tout particulièrement, les problèmes de pollution qui sont très inquiétants. On va écouter d'ailleurs le son du monde de la semaine. Le principe, une musique habillée d'une voix. Cette voix va lire un extrait de votre livre, Alexandre Trudeau, et c'est le jeune auteur haïtien Néhémie Pierre Dahomey que nous nous avons sollicité, qui a accepté, il est juste face à vous dans ce studio. Il va lire un extrait d'En Chine à propos justement de ce problème climatique sur la musique de l'artiste chinois Zhao Muang.
Quand le vent souffle, la capitale est aussitôt recouverte de poussière. Comme Los Angeles et Mexico, la capitale chinoise, située dans une vallée, est piégée par les montagnes qui l'encerclent. Par temps calme, une poche d'air emplie de gaz d'échappement et autres fumées toxiques nappe la ville. Yeux irrités et injectés de sang sont le lot quotidien des habitants et les troubles respiratoires courants chez les enfants. Une sévère agression qui n'est pas près de s'améliorer vu les centaines, voire les milliers de nouvelles voitures qui sont sur les routes chaque jour. Mais la capitale a un souci encore plus important que la qualité de l'air. L'eau. Les provinces qui entourent Pékin sont aux prises depuis des années avec une sécheresse sans précédent. Il y a tout simplement moins d'eau dans la région et la ville a toujours plus soif.
Extrait d'En Chine, livre d'Alexandre Trudeau par Néhémie Pierre Dahomey sur la musique de l'artiste de la nouvelle scène folk chinoise Zhao Muang. C'est un vrai problème écologique, effectivement Alexandre, avec les États-Unis de Donald Trump qui font marche arrière sur les accords climatiques de Paris, accords fortement soutenus d'ailleurs par votre frère, le Premier ministre Justin Trudeau. Il y a de quoi s'inquiéter vraiment?
Oui, effectivement. C'est les Américains, les Nord-Américains, les Canadiens, je dois le dire aussi, parce qu'on a tellement d'espace, on a du mal à sentir que la planète est rendue très petite, très fragile. Les Chinois, par contre, ils vivent dans un manque d'espace depuis des millénaires. Donc, ils sont habitués. Ils ont des problèmes majeurs, mais en même temps, je m'attends que ça soit... comme on voit avec la Chine comprend que l'environnement qui les entoure, même s'ils n'ont pas réglé leurs problèmes de pollution encore, je pense que la Chine va prendre les devants pour l'attaque des problèmes environnementaux.
C'est possible ça, d'après vous, oui?
Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Ouais. C'est essentiel pour eux. Les conditions, les Chinois acceptent, sont habitués d'accepter des conditions de vie difficiles, mais il y a des limites. Et maintenant que la Chine, souvent c'était l'environnement, elle n'était pas prioritaire. Mais ils sont rendus à un point, ils sont assez riches pour s'y consacrer.
Alors, c'est vrai qu'on connaît tous, évidemment, les grandes ambitions économiques de la Chine. Vous le racontez dans votre livre, et ce, depuis toujours. Et ce sont les multinationales étrangères qui ont noué des accords avec l'État chinois. Tout est là. Même si l'État garde le contrôle, il a ouvert toutes les frontières économiques. C'est le capitalisme à outrance, le libéralisme total aussi, avec une présence quasi inexistante des syndicats, et une grande difficulté pour les travailleurs de se défendre.
Oui. Oui, il n'y a pas d'organisation syndicale là-bas et c'est très difficile.
Vous rencontrez d'ailleurs des travailleurs qui ont eu du mal, qui ont été amputés, ont eu du mal même à porter l'affaire en justice.
Ça s'est amélioré, mais encore beaucoup, c'est-à-dire les conditions. C'est des gens qui travaillent, on s'attend, la Chine s'attend que ses citoyens travaillent très fort, 6 jours semaine, si pas 7, de longues heures, les conditions et les salaires se sont améliorés, mais c'est encore comme ça qu'ils parviennent à fabriquer des objets à bas prix que nous consommons.
Il y a des rencontres étonnantes quand même parce que il y a ce personnage auquel je pense, la Gan, qui travaille pour une grande entreprise d'exportation et qui vous explique qu'une bonne guerre serait favorable au développement scientifique et technique de la Chine.
Oui, c'est-à-dire c'est une drôle d'impression, mais il faut penser que l'Internet, on doit l'Internet à l'armée américaine. Donc, la modernité, d'une certaine manière, s'est fiée aux deux grandes guerres pour mettre de l'avant toutes sortes de technologies. Donc, c'est vrai que ayant vu plusieurs guerres, les guerres ont tendance à faire, peut-être à long terme, ils offrent quelques bienfaits, mais ils font des dégâts.
c'est pas mesurable quand même.
Mais c'est drôle à dire, la Chine, elle est profondément paisible. Et sécuritaire pour un si grand pays. Il n'y a pas de crime, là. Il n'y a pas de... ou très peu, du moins.
Non, mais ça vous choque quand même ce qu'il vous dit sur la guerre, non?
Il y a plein de choses de surprenant en Chine, oui, absolument. Non,
vous avez l'air...
parce que c'est un ingénieur.
Vous avez l'air de trouver ça presque normal, vous m'inquiétez,
non,
Alexandre.
Non, je dis qu'en Chine, le voyage en Chine, on rencontre toutes sortes de choses surprenantes. Ouais. C'est une seule fois que j'ai rencontré cette opinion-là. Ouais.
On va laisser la parole à trois autres libraires qui ont lu votre roman. Alexandre Trudeau, Suisse, Belgique ou France, on commence par qui? Vous préférez commencer par qui?
Bon, je sais pas, allez en Suisse, sur la rue des philosophes.
Allez en Suisse, Claire Renaud, oui, la rue des philosophes. Claire, c'est à vous.
Alors, a priori, la Chine ne m'attire pas particulièrement. Du coup, cette lecture a été pour moi une véritable surprise et j'ai beaucoup appris et eu énormément de plaisir à découvrir ce pays avec vous. Votre style et la manière de proposer tout en savoir à travers des dialogues et des descriptions très imagées m'ont beaucoup plu et ont rendu cette lecture très vivante. J'ai aimé découvrir la culture et les mœurs du pays et j'ai aimé aussi sa cuisine, excepté peut-être le serpent noir et coriace et les embryons de grenouille. Votre livre a vraiment changé mon regard et il laissera des traces dans mon imaginaire pour longtemps.
Grégoire Courtois pour la France, êtes-vous d'accord ?
Je suis d'accord sur le dynamisme du récit. Effectivement, le fait de prendre ce parti pris de récit de voyage apporte beaucoup en dynamisme, mais je trouve qu'il retranche aussi un petit peu en synthèse, parce que du coup, on est effectivement face à une mosaïque assez incroyable. Alors, c'est une mine d'informations, ça, je peux pas le nier, mais effectivement, moi, dans cette mine d'informations, parfois, je me suis perdu entre les différentes étapes. On n'est ni dans l'essai vraiment à proprement parler, ni dans la fiction, même s'il y a des personnages quand même, le personnage du narrateur et puis de sa guide. Mais voilà, moi, j'étais un peu perdu parfois dans le choix de tout ça.
Bien, mitigé quoi.
Ouais, parce que mais c'est passionnant.
C'est le plus compliqué, hein, c'est le plus dur à gérer. Annick Dore, en Belgique, vous n'êtes pas d'accord avec Grégoire?
Non, j'ai trouvé le livre vraiment très très complet. Il brasse l'histoire vraiment du pays, mais aussi il aborde des aspects plus variés, hein, comme l'industrie automobile ou l'art de fabriquer la soie. Donc c'est vrai qu'en vous lisant, on découvre autant alors les milieux intellectuels aussi de Pékin, par exemple, que les bas-fonds de Shanghai. Et j'ai trouvé aussi qu'on ne tombe pas dans les poncifs, il n'y a pas de jugement hâtif. On plonge vraiment dans les grandes villes, comme dans les campagnes, d'un pays qui est quand même, somme toute, extrêmement complexe. Moi, j'ai été plutôt séduite, oui.
Bien. La vie en Chine, Alexandre Trudeau, c'est aussi la cuisine, effectivement. Beaucoup d'anecdotes sur la cuisine dans votre livre, comme dans ce restaurant spécialisé dans le serpent dont parlait Claire. Vous avez mangé du serpent, vous l'avez choisi d'ailleurs.
Oui, ça fait partie du voyage, de voyager en mangeant, c'est sûr. Et en Chine, il faut comprendre que la religion chinoise, il y a deux éléments, c'est la famille et c'est la nourriture.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire tout ça. Et c'est un pays, c'est un peuple qui n'a pas vraiment de loisirs. Ou qui en a pas eu auparavant, là, ça commence avec le golf et des petites choses, mais c'est des gens qui travaillent tellement, leur loisir, c'est quoi? C'est de se retrouver autour d'une table et de manger.
Alors le serpent, dites-nous.
Et le serpent, les Chinois mangent, comme c'est un geste philosophique de manger, ils mangent pour des raisons particulières, pour faire un équilibre. Et le serpent, ce que je savais pas à l'origine, c'est quasiment un peu trop évident, c'est pour la vigueur sexuelle qu'on mange le serpent.
Ah oui.
Et donc, nous, on s'attend que les chairs qu'on mange soient tendres et bien apprêtées. Eux, bien évidemment, quand ils mangent pour cette raison, le serpent, il leur sert parce que c'est rigide, c'est dur, c'est coriace.
Oui.
Ça m'a pas plu.
Vous visitez aussi un salon de massage. Le massage intégral, dirons-nous, est très courant apparemment, Alexandre.
Oui, c'est-à-dire c'est un peu encore la compression, la densité du peuple, le fait que le corps humain est quelque chose de très anodin pour les Chinois. Donc, leur sexualité, à certains égards, il est très, très libéré. C'est-à-dire, à d'autres égards, ils n'en parlent jamais. C'est omniprésent, il y a du sexe partout, si on le... Mais,
si on le cherche, on le trouve.
Personne n'en parle jamais.
Ouais. Vous êtes allé dans le salon?
Qui est le contraire d'une certaine... Non, finalement...
Si, vous êtes allé un peu.
Ben, je suis allé
si
à la porte,
oui.
Il était question que je rentre. J'étais avec mes deux guides, deux femmes.
Qui étaient, en plus.
Qui voulaient y aller.
Qui voulaient y aller, pour encore une fois, et je me suis trouvé trop pudique pour y aller.
C'est vrai, vraiment.
Ben, franchement,
c'est pas une posture pour le livre, ça.
C'est pas un endroit, c'est-à-dire, je me suis dit, on passe pas une prostituée en entrevue dans son lieu de travail.
Non, c'est clair.
Ça n'a pas de sens. Mm-hmm. Mais c'était, je m'étais rendu jusqu'à la porte parce que mes deux guides féminines étaient tellement désinvoltes qu'elle trouvait ça normal. Mais ça m'a fait, justement, j'ai réalisé à ce point comment nous, les Occidentaux, nous sommes, à bien des égards, bien plus pudiques que les Chinois. Mmh. Les Chinois, bof, le corps humain, bof.
Voilà, toute cette analyse dans ce livre. Merci beaucoup, Alexandre Trudeau, d'avoir choisi La Librairie francophone en Chine et paru aux éditions Paulsen et aux éditions Boréal. Un récit passionnant, un carnet de voyage très instructif et très bien réalisé, parfaitement édité d'ailleurs. On va féliciter la maison d'édition. Merci à vous, Alexandre.
Merci
à très
à
bientôt.
Tous.
À suivre l'actualité des livres de poche avec Yo-Yo Mag. Nous serons aussi avec Yann Kefelec et Néhémie Pierre Dahomey, tous deux invités du festival Étonnant Voyageur. Et voici un événement musical français à présent, avec le tout nouveau titre du chanteur Raphaël, et c'est dans La Librairie francophone.
Il pleut des cordes sur le balcon, le vent s'engouffre dans la maison, les volets claquent vers la mer, le ciel est bleu pourtant. Tu regardes vers le nord, avis de grand frais à la fenêtre, mer 5 à 7, forcissant dans ta tête, des crêtes d'écume au plafond. Un orage dans le salon, dans la salle de bain du bas, détends-toi. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps. L'anticyclone des Açores est sur nous, la main de Dieu est sur nous, les comètes géantes arrivent, le canapé dérive, dans les muséums d'histoire naturelle, les os des dinosaures tremblent, les planètes s'entrechoquent. Et tu n'as encore rien vu, et tu n'as encore rien vu. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, c'est l'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps. Sur le balcon, le vent s'engouffre dans la maison, les volets claquent vers la mer. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps.
Le chanteur Raphaël, c'est son tout nouveau titre, l'année la plus chaude de tous les temps, sur votre radio francophone.
La Librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
RTBF La Première.
Ici Radio-Canada Première.
France Inter.
Et toutes les semaines, nous vous emmenons dans la plus grande librairie du monde, un lieu virtuel avec des libraires qui vous présentent leur coup de gueule et leur coup de cœur. Et on commence avec la Suisse Claire Renaud. Coup de cœur ou coup de gueule pour votre première participation?
Mais en coup de cœur, évidemment,
ah,
Emmanuel.
Allez, commençons doucement. Allez-y.
Pour un premier roman signé Sarah Chop, qui raconte l'enfance d'une petite fille, Anna, qui a deux maisons. Ses parents sont séparés et dont la mère, si joyeuse et spéciale, va mourir d'un cancer. Ce qui me séduit dans ce récit, c'est que l'auteur fait alterner deux voix, celle d'Anna jeune et celle d'Anna adulte. Des voix qui se font écho sans jamais tomber dans le procédé. Le récit de cette enfance heureuse brutalement interrompue est poignant et prenant. Il est aussi tendre. Bref, très réussi.
D'accord. Anna de Saratchop aux éditions Encre Fraîche. Merci Claire. On part en Belgique avec Annick Dor. Coup de cœur aussi, me dit-on, Annick.
Oui, coup de cœur Emmanuel.
Quelle sagesse.
Pour un roman qui s'intitule Calcaire. On le doit à Caroline de Mulder, il est paru chez Actes Sud. C'est un polar en fait, c'est un polar maîtrisé, mais tant au niveau de l'intrigue qu'au niveau stylistique. On a une écriture qui joue avec l'argot, sans du tout atténuer le caractère vraiment hautement littéraire du roman, avec cette particularité assez amusante d'être ponctuée d'expressions typiquement flamandes, données en flamand et puis traduites directement en français. Et on perçoit à quel point l'auteur maîtrise parfaitement les deux langues et s'amuse avec ça. Donc c'est un côté tout à fait jubilatoire, mais je rassure quand même nos auditeurs, un francophone pur jus qui ne connaît pas la langue de Vondel comprendra parfaitement, donc il ne faut pas spécialement être belge pour l'apprécier.
Il ne faut pas avoir peur de Caroline de Mulder, Calcaire, chez Actes Sud. En revanche, on aura peur tout à l'heure avec notre méchant libraire Grégoire Courtois qui vous parlera d'un gros coup de gueule tout à l'heure, c'est vrai ?
Ah oui, comme d'habitude.
Merci.
La librairie francophone, Emmanuel Queyrade.
Dans l'actualité des livres de poche, la sortie du livre de Yo-Yo Mag, petite fille du célèbre galeriste Aimé Mag, qui fonda la fondation Mag dans le sud de la France, à Saint-Paul-de-Vence, et qui fut l'ami de tous les grands artistes de son époque. Dans la saga Mag, parue à l'origine chez Robert Laffont en 2014, Yo-Yo Mag raconte tout, les souvenirs et les désillusions. Votre grand-père, Aimé Mag, vous fait rencontrer tous les artistes de son époque. Vous voyez tout le monde.
Oui, parce que tous les artistes le fréquentent et sont à la maison. C'est pas qu'il me les fait rencontrer, c'est qu'ils sont là dans notre quotidien. C'est Chagall qui nous raconte la Bible, c'est Braque qui nous garde le jeudi, c'est Miro qui me montre les oiseaux et qui m'apprend les belles fleurs, c'est Montand qui m'apprend à nager, c'était la vie là-bas aussi, c'était la vie entre Paris et Saint-Paul. Elle était comme ça et j'espère que c'est ce que j'ai livré dans mon ouvrage, c'est vraiment cette saga Mag qui a traversé plusieurs générations. Mon grand-père commence avant-guerre, à Cannes, rencontre Bonnard, qui devient son mentor, puis Matisse, puis là, toutes les choses s'enchaînent merveilleusement. C'était un homme disponible à la chance.
Et vous racontez qu'un jour, vous allez dans l'atelier de Braque, avec un cadeau, une grande boîte de crayons de couleur, avec une intention très particulière.
Oui, parce que Braque, c'était comme mon papy. Alors, on m'offre une boîte de crayons de couleur. Ma première idée, c'est de l'offrir à Monsieur Braque. Mmh. Et je lui apporte et je lui dis, tiens, Monsieur Braque, pour faire des Miro. Parce que pour moi, un Miro, c'était un tableau, puisque quand on était dans tous les vernissages et on entendait les gens qui disaient, tu as vu les derniers Miro, ils sont beaux, tu as vu, il y a eu un grand Miro exposé à tel endroit. Donc, pour moi, ça voulait dire tableau.
C'était un style, oui, c'est ça.
Ça voulait dire tableau.
Un tableau. Il y a ce souvenir avec Miro dans les jardins de la Fondation Mag. Avec lui, vous écoutez Duke Ellington, qui est juste en face de vous, au piano. Vous avez 7 ans. Et là, Miro vous raconte quelque chose qui va vous rester à vie et qui va vous permettre justement de travailler, d'évoluer comme ça dans ce métier avec un regard particulier.
Oui, j'en ai même là, quand vous l'évoquez, j'en ai encore des frissons parce que ça a vraiment fait basculer ma vie. On est effectivement, Duke Ellington est venu voir mon grand-père qui a fait sortir notre piano dans le jardin. Il est avec ses musiciens et il improvise un blues for Miro qui est sublime, qui heureusement en plus a été enregistré. Et Miro me dit, tu vois... on est juste tous les deux, hein, Miro et moi, et mon grand-père. Tu vois, Duke Ellington utilise les mêmes notes et le même instrument que Mozart. Alors je ne comprends pas, il rajoute, j'utilise les mêmes couleurs que Rembrandt, et pour que je comprenne, il me dit, tu utilises les mêmes mots que Prévert. Et en fait, il m'explique à ce moment-là que la matière est la même pour tout le monde, seul l'artiste en fait quelque chose.
Alors, vous racontez tout ça, on s'aperçoit vraiment, on saisit l'époque, d'ailleurs. C'est assez étonnant parce que ce récit, c'est comme une histoire qu'on raconte. On croise toutes les personnalités de l'art de l'époque. Mais vous racontez des choses terribles vers la fin du livre. Il y a un chapitre absolument horrible. Yo-Yo Mag, vraiment, je vous le dis, parce que vous racontez un véritable cauchemar à Saint-Paul-de-Vence. C'est Dallas, en fait, dans les pires moments. C'est exactement ça. La famille se déchire. Votre sœur Isabelle vous harcèle en permanence. Votre père est capable du pire avec vous, avec son autre fille, Florence, votre sœur, avec vos enfants, ses petits-enfants. Et le désastre commence pour vous en 2007, quand on vous remet la décoration de l'Ordre National du Mérite.
Oui, c'est très difficile. C'est curieux parce que j'ai réussi à raconter tout ça dans un livre, mais j'ai pas une folle envie d'en parler. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est terminé. Pour moi, ces histoires-là, elles sont malheureuses, elles sont tristes, elles sont très intelligemment faite. Il ne faut pas oublier aussi que dans cette famille, nous sommes tous des personnes qui ont eu une éducation incroyable. Grandir avec Malraux ou connaître Giacometti, ça vous force évidemment à une exigence morale et intellectuelle incroyable. Et ça vous donne aussi beaucoup d'imagination, y compris dans, peut-être dans, non pas la méchanceté, mais je ne sais pas. Peu importe. Et oui, c'est difficile parce que moi, j'ai toujours essayé de faire les choses pour la famille, en portant l'image de mon grand-père en particulier. Et on me reproche finalement de faire ce que les autres ne font pas. Voilà. Et ce jour-là, effectivement, je comprends que parce que j'ai réussi, parce que j'ai fait des choses, eh bien, ma famille me le reproche. Mmh.
C'est douloureux de ne plus pouvoir retourner à Saint-Paul-de-Vence, de ne plus pouvoir retourner sur les lieux de votre enfance, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu ça, on vous interdit l'accès, je crois.
On ne m'interdit rien du tout. Je n'ai plus envie d'y aller.
On vous a fermé la porte de votre maison, en tout
oui,
cas.
Oui, bien sûr, mais ce n'est pas très important. Vous savez, quand vous êtes face à un tableau de Miro, est-ce que vous vous dites, c'est terrible, Miro est mort? Il vous reste le tableau. Moi, j'ai accès, quand je vais au Centre Pompidou et que je vois un Giacometti que mon grand-père a offert au Centre Pompidou, Giacometti est toujours vivant pour moi et mon grand-père est toujours vivant pour moi. Et Pompidou, qui était un grand ami, j'en parle aussi dans mon livre, est un grand ami. Il n'y a pas ce côté du tout morbide pour moi. Donc, mes souvenirs, ils sont merveilleux. Non, ça, sincèrement, ça ne me manque pas.
Et le livre de Yo-Yo Mag, la saga Mag, vient de sortir en poche chez Point. Yann Kefelec est donc dans la librairie pour un recueil de nouvelles inédites parues en poche chez Point. Aussi, l'aventure Le choix d'une vie rassemble 9 auteurs. Alexandra Lapierre, Alain Mabankou, Sylvain Tesson, Valérie Zenati, entre autres, et vous Yann. Alors dans cette histoire, 3 amis ont pour mission de naviguer sur un voilier qu'il faut envoyer à Brest alors qu'il est à Carthagène dans le sud de l'Espagne. C'est une belle aventure ce parcours d'ailleurs.
Ce qui m'intéressait dans cette histoire, si vous voulez, c'est de montrer que 3 personnes qui ne se connaissent pas vont se retrouver dans un état d'intimité obligatoire et donc d'accélération de la familiarité de manière immédiate pour la sauvegarde du navire. Et ils en oublient que l'état du bateau n'autorise pas, ne facilite pas toujours les rapports humains. En plus, quand le bateau vraiment est dans un état assez pitoyable, comme c'est le cas de ce navire, régulièrement, une sorte de folie collective finit par s'emparer de l'équipage. Et c'est cette démence à la fois liée à la mer, liée à l'histoire de chacun, liée à son état d'esprit lorsqu'il embarque avec ces autres personnes qu'il ne connaît pas, qui détermine cette errance à la fois à travers, de manière géographique, à travers les kilomètres, à travers les milles, et puis à travers soi-même et à travers la rencontre avec autrui.
Et il y a plein d'interprétations possibles, c'est assez mystérieux. C'est presque mystique parce qu'il y a une fin qui désarçonne complètement le lecteur. On peut pas la raconter, mais on peut l'interpréter. Et d'ailleurs, il y a un grand débat dans l'équipe à se demander exactement quel était le sens de la nouvelle.
Quand on embarque sur un bateau, on est immédiatement confronté à la notion de courage. On sait très bien que le risque zéro n'existe plus. On est dans une société où le risque zéro est systématiquement mis en avant, et là, le danger est constamment là. Il ne faut pas en faire état autour de soi, il ne faut pas donner l'impression d'avoir peur, il faut que le navire avance, qu'il couvre la distance qu'il doit couvrir, et en même temps, à chaque seconde, il peut arriver le pire. C'est ce qui se produit sur ce navire, c'est à ce moment-là qu'on voit que les courageux peuvent se devenir des lâches, et que celui sur lequel on ne comptait absolument pas se révèle à lui-même, alors qu'il ne l'espérait pas et qu'il avait menti à tout le monde.
Alors c'est vrai que c'est le voyage initiatique par excellence, le voyage initiatique idéal, parce que quand on regarde la carte de Carthagène jusqu'à Brest, il y a un sacré parcours. On passe par la mer Méditerranée, le détroit de Gibraltar, on longe comme ça la côte portugaise pour arriver jusqu'à Brest.
C'est pas énorme en fait. C'est pour un voilier de 15 mètres, ça consiste juste à contourner la péninsule ibérique et puis à se retrouver au port de Brest. C'est à la fois une belle distance, comme là, c'est 8 jours de mer, dans des conditions qui promettent d'être plutôt assez agréables de par les prévisions météorologiques, mais ça peut devenir immense, ça peut devenir le bout du monde, ça peut devenir le tour du monde. Ça peut devenir le tour de soi-même, et c'est exactement ce qui se passe dans un temps qui est à la fois comprimé à certains moments et au contraire distendu à l'infini à d'autres instants. C'est qui est la caractéristique du voyage sur l'eau. Quand on prend la mer, on devient obligatoirement plus ou moins fou, quel que soit le navire, quelle que soit la distance, quelles que soient les conditions.
Et on ne sait jamais quand on arrive.
Et on ne sait jamais.
Il y a toujours l'incertitude.
Quand on remet le pied à terre, on n'est plus du tout celui que l'on était lorsque l'on a appareillé.
On va écouter la BO du roman aujourd'hui, BO de la nouvelle. On vous a demandé, Yann Kefelec, quelle musique illustrerait le mieux votre histoire, comme dans un film. Et vous avez choisi les Pink Floyd avec Comfortably Numb.
Out of the corner of my
Pourquoi ce titre, Yann Kefelek?
Parce que ce sont les Pink Floyd que j'écoutais lorsque je naviguais en 1975, lorsque l'album est sorti. Et puis c'est une musique qui exprime bien, c'est une musique qui exprime bien ce climat de folie extrêmement douce où se trouve le marin sur une mer qui n'a absolument pas l'air dangereuse et qui en même temps à chaque seconde peut l'amener à prendre des décisions extrêmes. Ouais. Et cette musique, et c'est la traduction très précise de l'état d'esprit du marin sur l'eau, là, sur une mer très douce, très balancée, alors que le skipper sait parfaitement que ça peut ne pas durer.
Ouais, ça peut tourner à tout moment, et vous le racontez, l'honneur du marin, c'est de sauver un bateau.
C'est exactement ça. En fait, c'est pas
ce
qu'ils
font vos personnages dans la nouvelle.
C'est l'honneur du marin. Ça ne veut pas dire que c'est l'honneur de soi-même. Oui. L'honneur de soi-même, c'est de sauver sa peau, c'est de s'en sortir, c'est d'être vivant à l'arrivée. Mais ce qui est affiché, ce qui est déclaré, c'est de ramener un bateau en bon état à celui qui vous a commandé sa traversée.
Vous avez déjà sauvé un bateau ?
Je pense en avoir sauvé plusieurs. Je pense que plusieurs bateaux m'ont sauvé et je pense que j'ai failli en perdre quelques-uns également. Et je pense que la mer pardonne et que merci la mer, merci l'océan.
Donc vous êtes un marin honorable, Yann.
Je pense
honoré et honorable.
C'est pas à moi de le dire, mais en tout cas, oui, j'ai été honnête sur la mer.
Deux libraires ont lu votre nouvelle, Yann Kefelek, la Belgique et le Canada. On va commencer par la Belgique. Annick Dor.
Oui, alors c'est vrai que moi de mon côté, en terminant cette nouvelle, j'avais limite la larme à l'œil. Hein. C'est vraiment une aventure maritime, mais c'est aussi et surtout une aventure humaine où on découvre que face aux extrémités, eh bien on peut vaincre ses peurs et se dépasser. Et ici, l'aventure se mue quelque part en libération et elle permet de trouver son énergie vitale, selon l'expression d'Alexandre Lapierre dans un autre très beau texte du recueil.
Billy Robinson au Canada, qu'en pensez-vous?
Oui. Mais le pari est plutôt réussi là avec ce recueil, selon moi. Alors, comme c'est souvent le cas, malheureusement, dans les textes de ce genre, dû au format raccourci, on peut pas toujours tout bien expliquer. Alors, je me suis un peu perdu là dans les différents termes nautiques et certaines expressions. Mais nous avons tout de même ici là un livre et un recueil où l'on magnifie les lieux, le monde, les gens, mais surtout, et c'est ce qui transparaît le plus ici là, c'est la passion de vivre chaque moment.
C'est vrai qu'on voyage à travers la langue avec vous parce qu'il y a beaucoup de termes nautiques, c'est vrai.
J'ai essayé de non pas d'appauvrir la terminologie marine, mais il est vrai qu'on ne peut pas non plus ne pas utiliser certains mots qui nous feraient passer pour des tocards aux yeux des marins si jamais on en utilisait
c'est
d'autres.
Surtout ça, oui.
Mais c'est vrai que j'ai franchement essayé de rendre le texte compréhensible à travers, encore une fois, une terminologie qui est typique des bateaux à voile.
Et puis, il y a plusieurs façons de voyager. Et ça, vous le démontrez très bien. Et vous l'avez toujours démontré dans toute votre œuvre, hein, Yann Kefelek. Le festival Étonnant Voyageur le montre chaque année, encore là, en ce moment même. Quel est votre voyage fantasmé, Yann Kefelek, vous?
Mon voyage fantasmé, ouais. je préfère les voyages réalisés. De toute manière, pour moi, vivre, c'est une sorte de fantasme que je suis en train de réaliser. C'est un voyage et je ne cesse d'aller de voyage réalisé en voyage réalisé tout en ayant conscience que tout cela me plonge dans un état de rêve où je me sens extrêmement bien.
Il y a le dictionnaire amoureux de la Bretagne sorti en version illustrée que j'ai sur la table. Où est-il ? Il est là, pardon. Il est sous les feuilles. Et dans ce dictionnaire sorti en version donc illustrée, vous vous faites plaisir avec des personnages historiques, des lieux comme Brest, Carnac et ses dolmens, et puis bien sûr Belle-Île-en-Mer. Et Belle-Île-en-Mer, c'est vrai que c'est le premier voyage, je dirais, du Breton, puisqu'on quitte la côte et on arrive sur une île. C'est un peu le symbole.
Brest est au moins autant un symbole que Belle-Île-en-Mer. Belle-Île-en-Mer, je pense qu'on pense immédiatement à Laurent Voulzy, et ça fait chanter tout le monde.
Oui, vous voulez qu'on chante la chanson ?
À Belle-Île-en-Mer, donc je peux la chanter, non, aucun problème.
Allez-y.
Mais non, je vais pas le faire. Mais Brest, c'est vrai que c'est une ville mythique pour moi. C'est la ville de ma famille, c'est la ville de mon enfance, c'est une ville que j'ai vu reconstruite après la Seconde Guerre mondiale. C'est la ville d'où je suis parti en bateau. De Brest, je suis allé à Belle-Île-en-Mer, et c'est vrai que à Belle-Île-en-Mer, ensuite c'est Belle-Île-en-Mer, l'horizon, et l'horizon, c'est partout.
C'est partout. Et le Canada, juste en face.
Bien sûr.
Grande histoire entre les Bretons et les Canadiens. Voilà. Merci beaucoup, Yann Kefelek. Vous restez bien sûr avec nous pour cette rencontre avec Néhémie Pierre Dahomey à l'occasion du festival Étonnant Voyageur qui se tient tout le week-end en Bretagne, à Saint-Malo. Le recueil de nouvelles, L'Aventure, le choix d'une vie est paru aux éditions Point. Bonjour, Néhémie. Je vous ai pas dit bonjour tout à l'heure.
Bonjour, Emmanuel.
Bravo pour votre lecture avec Alexandre Trudeau.
Ah ben merci.
Vous voulez chanter Belle-Île en mer de Laurent Voulzy ?
Je n'oserais pas, non.
Très bien. Bon, on chantera tout à l'heure.
Thank you.
Et dans cette plus grande librairie du monde, on part en France avec le méchant Grégoire Courtois avec un coup de gueule, le fameux. Allons-y.
Ouais, je fais un coup de gueule, mais contre personne finalement, si, peut-être contre les éditeurs un petit peu.
Ah bon ?
Ouais, bah, pour toutes ces commémorations. Alors, vous savez, parfois, c'est très utile de commémorer par un livre quand on commémore l'anniversaire d'un artiste, d'un écrivain qui serait tombé dans l'oubli, on le remet au goût du jour. Là, en 2014, ça faisait 100 ans que c'était 1914, et en 2018, bah, oui. Voilà, et il y a eu la guerre 14-18. Et là, ça fait 4 ans qu'on se coltine des bouquins, mais à n'en plus finir. Alors, c'est pas comme si on n'avait jamais eu un livre sur la guerre de 14 depuis 100 ans, hein. C'est qu'il y en a quand même quelques-uns qui surgissent quand même régulièrement, très intéressant. Mais là, quand même, il y a un peu de tout et n'importe quoi, du carnet du poilu un peu retrouvé de n'importe où qui sert à rien ni à personne, par peut-être à sa famille pour qui c'est passionnant. Voilà. Donc, moi, je voulais juste dire que je plains les libraires de 2039-2045 parce que là, ça va être vraiment la catastrophe.
C'est,
voilà.
C'est affreux. Je sais pas s'il faut en rire ou pas, mais c'est vrai que.
Ouais, non, c'est terrible. C'est terrible. En librairie, bon, c'est une avalanche.
Billy Robinson au Canada, un coup de gueule aussi?
Non, en fait, moi, c'est un grand coup de cœur. On continue de l'aventure avec Sven le Terrible, de l'auteur Réa Dufresne et l'illustratrice Orbi. Donc, un album jeunesse qui séduira les amateurs de trésors, de pirates et de combats. Sven le Terrible initie les jeunes lecteurs au code de la BD, idéal pour les vacances. Alors, on ne peut que souhaiter une suite aux mésaventures de ce sympathique pirate et ses acolytes.
Pas de vacances pour les pirates, c'est aux éditions Les 400 coups. La librairie francophone avec Alexandre Trudeau, Yo-Yo Mag, Yann Kefelec et Néhémie Pierre Dahomey. Et avant de chanter Belle-Île en mer, on part tout de suite en République démocratique du Congo avec le tube francophone de la semaine et le staff Benda Bilili dans la librairie francophone.
Bona nini e
Staff Benda, Bilili, Moziki sur ici Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Nous sommes avec Yann Kefelec et Néhémie Pierre Dahomé pour le festival Étonnant Voyageur qui se tient tout le week-end à Saint-Malo. Et d'ailleurs, avant que j'oublie, Yann Kefelec, vous avez publié L'homme de ma vie en poche. Ça y est, vient de sortir, parce qu'on parlait des poches tout à l'heure, aux éditions Point. Néhémie, c'est votre premier roman. Vous êtes un jeune auteur né en 1986. Votre personnage, Belly, part sur un voilier, pas du tout dans le même esprit que celui de Yann Kefelec, un voilier artisanal qui embarque 40 personnes pour un voyage clandestin vers les États-Unis. Elle va perdre son bébé parce qu'elle le jette à l'eau pendant la traversée. C'est une tragédie absolue.
Oui, une tragédie plutôt dans le sens grec du terme, hein, c'est-à-dire une forme de lutte contre le destin. L'écriture que j'utilise d'ailleurs, par ailleurs assez classique, ne fait pas du tout dans le pathétique, dans le pathos. Belliqueuse Luisin, c'est ce personnage qui va toujours au devant de quelque chose, et il se trouve que ce quelque chose, c'est sa propre vie. C'est quelqu'un qui essaie toujours de se déterminer, qui ne se laisse pas faire par la surdétermination sociopolitique, économique, etc. Donc elle fait ce voyage échoué vers les États-Unis. Yann Kefelec parlait tout à l'heure de voyage. Et ça m'a tilté parce qu'effectivement, il y a ce désir de voyager face auquel on n'est pas égalitaire. Mmh. C'est-à-dire, quand on a un passeport haïtien, par exemple, ou le passeport d'un certain nombre d'autres pays dans le monde, on ne se déplace pas aussi facilement sur son voilier comme on le veut. Ce qui peut être du plaisir pour certains est carrément la marque d'un destin difficile pour d'autres. Mmh. Donc, Belly essaie ce voyage qui échoue et elle revient vivre à Rapatrier. Voilà, ouais. L'histoire du roman va être qu'elle finira par faire adopter deux de ses enfants. Deux filles, Bélia et Luciole.
L'une qui partira au Canada, adoptée par un vieux couple canadien, et l'autre en Bourgogne, avec Pauline, une femme engagée dans une ONG et qui va élever cette fille.
Pauline, qui est cette femme qui, après avoir fait le tour de la géopauvreté mondiale, s'est rendue compte qu'elle n'avait jamais connu le mou bonheur d'un petit corps chaud contre sa poitrine. Vous savez, ce genre de personnage très militant, un peu casse-pied dans la vie, mais porté par le souffle d'un désir que tout aille mieux. Alors, je tiens à préciser que, travaillant pour les ONG, elle n'avait pas été un prétexte pour moi pour critiquer journalistiquement les ONG. Mmh. Ce que j'ai montré, peut-être, c'est surtout la condition difficile, le paradoxe profond qu'il y a à vouloir aider et ne pas pouvoir le faire parce que les leviers de base ne sont pas les bons.
Et puis, la difficulté aussi entre la migration physique et la migration intérieure. Il y a cette confrontation voilà, de deux migrations. Yann Kefelec, comment vous percevez d'ailleurs ces migrations qui sont souvent désignées en chiffres et peu en termes humains ?
Alors déjà, je voudrais dire que je suis frappé par la manière dont s'exprime Néhémie. Je trouve que c'est très beau. On a l'impression de lire un livre en vous écoutant, un livre qui aurait bien compris le sens de l'oralité, de toute manière, dans la communication entre les individus et entre les histoires. Un roman est intéressant pour moi à partir du moment où il me transmet une image à partir de laquelle je me mets à rêver à l'infini. L'idée de cette mère, comme ça, qui jette à la mer au cours d'une traversée, au cours d'un voyage, son bébé, c'est quelque chose qui immédiatement met en branle chez moi mes imaginaires et ma mémoire la plus reptilienne, la plus enfouie.
Merci Yann Kefelec. Figurez-vous que je m'attendais aussi à sortir une anecdote concernant votre livre que j'ai lu juste avant l'émission, enfin 2-3 jours avant.
Lequel ? L'homme de ma vie ?
L'homme de ma vie, ouais, oui.
Qui vient de sortir en poche.
Effectivement, je l'ai lu ce week-end avant l'émission, en préparation de l'émission.
Vous ne répondez pas à mes questions en fait. Non mais allez-y.
Il se trouve que ce week-end, dans un état de blues, je me suis dit, tiens, je vais écouter un peu de Chopin, un peu de classique. J'ai mis Chopin sur mon ordinateur, sur YouTube, je n'ai pas forcément mieux. Et j'ai vu mais une belle pianiste qui s'appelle Engerer en train de jouer. Je me dis, oh là là, quelle belle femme. Ouais. Je suis en train de lire le livre de Yann Kefelec. Ouais. C'est après qu'à un certain moment du livre, j'ai vu qu'il aurait épousé une pianiste qui s'appelle Engerer. Oui. Ouh là là, panique. Je me suis, dans l'imagination, j'ai cocufié Yann avec sa belle pianiste. Et là, je me sens tout gêné.
Est-ce que je posserai la main de Néhémie à l'antenne? Elle nous pardonne, Néhémie. Elle n'est plus de ce monde et elle nous pardonne.
Ouais. Grand livre, hein, d'ailleurs, sur votre épouse pianiste.
Tout à fait.
Oui. Ouais. Bon, je ne sais plus quoi faire, moi, parce que vous faites l'émission tout seul.
Pour finir...
J'ai plus de questions.
Pour Allez. Finir...
les libraires.
Pour finir de répondre à la question que vous n'avez pas... C'est quoi? J'ai été impressionné par le regard d'Alexandre qui était là, Trudeau.
Alexandre Trudeau, ouais.
Ses yeux bleus. Mm-hmm. Et de temps en temps, je jetais un petit regard sur Yann Kefelec. Je me demandais, mm-hmm, est-ce qu'il n'avait pas peur? Parce que les yeux d'Alexandre étaient exactement les yeux du père de Yann, dont il avait peur toute son enfance.
Mais c'est pas faux d'ailleurs, parce que j'ai un peu comparé son regard bleu avec celui de mon père dans L'homme de ma vie. Mais finalement, le regard d'Alexandre était tout de même bien plus amical que celui de mon père.
Bien plus bienveillant.
Ben, vous avez très bien préparé l'émission, Noémie. Félicitations.
N'est-ce pas?
On va donner la parole aux libraires. Vous voulez qu'ils donnent leur avis ou pas?
Si c'est des coups de gueule, non.
Ben, je sais pas, le moins facile, mon petit Grégoire Courtois. Vous avez aimé ou moyen?
Si.
Non, moyen. Allez, on passe à quelqu'un d'autre. Claire Renaud pour la Suisse. Qu'en pensez-vous? Claire.
Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai beaucoup aimé. Et ce qui a... Je peux y aller?
Allez-y, oui.
Ce qui a retenu d'emblée mon attention, monsieur Pierre Dahomey, c'est votre style qui me plaît beaucoup. La prose, elle est poétique. Elle rythme tout le roman, souligne les étapes tragiques de la vie de cette jeune haïtienne et de ses enfants. Et ce qui m'a touchée, c'est que malgré ses existences gâchées, vous savez nous montrer la force de vie d'une population, encore capable d'aimer et d'être solidaire. Bref, c'est un magnifique premier roman et un très beau portrait de femme.
Ah, merci beaucoup.
Merci Claire. Grégoire, non, c'est la peine.
Je suis d'accord, moi je suis d'accord avec ça. Moi, c'est juste les 50 dernières pages qui m'ont un petit peu plus dérangé. Mais sinon,
ça n'intéresse pas Noémie qui dirige l'émission aujourd'hui. Ça nous intéresse. Ouais. On va terminer avec
le pauvre Grégoire.
Avec la complexité. Non, j'ai l'habitude. La complexité de la maternité avec Bailey, qui est aussi comme ça entre la folie d'avoir perdu son bébé en mer et la résilience. C'est une femme a priori très forte parce qu'elle va tenter d'avancer jusqu'à ce que ça ne soit vraiment plus possible.
Oui, c'est vrai que jusque-là, on a parlé de paternité. Pourtant, ce roman, c'est le roman de la maternité. Belliqueuse, c'est avant tout une maman dans ce que cela comporte de plus fragile, c'est-à-dire de plus fort. C'est quelqu'un qui veut du mieux pour ses enfants. À aucun moment, elle ne les a lâchés par désaveu ou par désamour. C'est quelque chose de très paradoxal. Elle fait une rencontre, elle rencontre le Saint-Esprit de Dieu, qui a une rencontre très curieuse, et elle lâche les enfants. C'est effectivement un roman sur la maternité. Aussi.
Votre roman a été très bien accueilli par la critique et par vos collègues écrivains. Dany Laferrière vous a soutenu. Comment ce récit est-il perçu à Port-au-Prince? Vous avez des retours ou pas?
Oui, plus ou moins. Alors, ce roman a la particularité, s'il y a une réussite dont je me flatte, à côté du fait que c'est un travail d'écriture, effectivement, parce que j'ai longtemps écrit de la poésie, ça a la particularité d'être à 100% un roman haïtien, autant que c'est à 100% un roman français et
d'accord,
universel.
Comment est-il, si vous pouvez répondre à une question, comment est-il perçu à Port-au-Prince?
Je vais tenter. Je connais mes réponses avant d'écouter les questions. Je fais un peu de politique, voyez-vous. Bien, très bien perçu.
Bon, allez, on va s'arrêter là parce qu'on est en retard. Merci beaucoup, Noémie Pierre Dahomey. Merci beaucoup, Yann Kefelec. On vous laisse rejoindre le festival Étonnant Voyageur de Saint-Malo avec signature et conférence. Bonne chance pour la suite, Noémie, sincèrement, rapatriée et parue aux éditions du Seuil.
Merci, Emmanuel. À
bientôt.
Merci, Yann.
Merci.
La librairie francophone, Emmanuel Quérade.
Avant de conclure, coup de projecteur sur un artiste francophone, voici le duo français Monterosso. Monterosso Wakashina, que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la réalisation, Serge Gandon avec Alexandre Chenet, Djoubaka à la prog musicale. Merci Némi, Pierre Dahomey, Liane Kefelec, Alexandre Trudeau. Merci Grégoire Courtois qui n'a pas beaucoup parlé. À la rédaction, Jean-Philippe Verret avec Christophe Magère et Marie-Louise Beau en France, Martine Béguin-Felet et Annick Chouet en Suisse, René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique, Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, sur votre radio francophone avec un entretien-reportage dans les rues de Nice avec Didier Van Kovelaert et la Belge Geneviève Dama en studio, entre autres. Bonne semaine, bon week-end.